Chapitre 27. Antoine. J'entre tout en haut de l'amphi Axelrad. 600 places, le plus grand de tout le campus. Il est plein à craquer, comme si Prince allait se produire sur scène. Des étudiants sont également assis dans les escaliers, debout dans les travées. Un peu partout, des tracts sont éparpillés, des affiches punaisées sur chaque mur et une large banderole déroulée sur toute la scène indique le programme du jour. 25 octobre 1995, université en lutte. Je comprends qu'il n'y aura pas cours ce matin. J'ai toute la matinée devant moi. Je n'ai rendez-vous avec Valérie Petit qu'en début d'après-midi, chez elle. Je n'ai même pas eu d'excuses à donner. Dès que j'ai téléphoné, elle m'a demandé avant que je ne prononce le moindre mot « C'est pour visiter la maison ?» J'ai simplement répondu oui. Aujourd'hui, à 2h30. Je pose mon sac de cours et je m'assois sur la dernière marche de l'escalier. Il n'y a pas vraiment de place, mais on se tasse. Sur la scène, je ne compte que 3 chaises, vraisemblablement occupées par 3 meneurs élus à main levée lors de la dernière AG. Le premier est une brindille qui nage dans un gros pullover rouge. Le deuxième a un beau gosse barbu, aux fringues tellement fripées qu'il semble avoir dormi ici et venir de se réveiller. La troisième, une fille rousse et très pâle, qui porte un sarouel et une ample tunique africaine. La brindille est le premier à prendre la parole.
« Camarades !» hurle-t-il. « Nous tenons une première victoire. En ce moment même, 15 de nos camarades occupent le rectorat de Rouen. »
Un tonnerre d'applaudissements salue la nouvelle.
« Ils y ont passé la nuit !» continue la brindille rouge. « Et nous n'en bougerons pas tant que Bayrou ne nous aura pas rendu nos millions !»
Nouvelle acclamation. La brindille a du coffre, comme si son corps maigre n'était que le tube creux d'un puissant instrument de musique. Je t'aperçois enfin, Antoine. Tu es debout, proche du premier rang, et tu surveilles l'amphi des yeux. Dès qu'une main se lève, tu griffonnes sur ton bloc-notes. Je comprends que tu es chargé de recenser les demandes de prise de parole pendant l'AG, puis de la distribuer. Pour l'instant, la brindille n'en a toujours pas fini.
Mais nous ne nous arrêterons pas à demander ces 12 millions, camarades. Aujourd'hui, la France nous regarde. Nous sommes les premiers étudiants de France à nous être levés. Demain, toutes les universités nous suivront, et pas seulement les universités. L'automne sera chaud pour Chirac. Dans 15 jours, le plan Juppé sera annoncé, et avec lui la casse de tout ce pourquoi, avant nous, tant de camarades se sont battus. Je vous parle du démantèlement de la sécurité sociale, de l'alignement de la retraite des fonctionnaires sur le secteur privé, de la fin des régimes spéciaux.
Le discours de la brindille semble parti pour durer. À côté de moi, près des portes de l'amphi, des étudiants passent la tête, reniflent l'ambiance, écoutent un moment, posent quelques questions aux auditeurs les plus proches. Ils ont dit quand les cours reprenaient ? Puis repartent. Le brouhaha dans le hall d'entrée ne perturbe pas la concentration des centaines d'autres étudiants réunis. La brindille continue son exposé, mais depuis qu'il parle, une quinzaine d'autres mains se sont levées, et tu les as toutes notées. Je réalise que l'AG va durer des heures si tous parlent aussi longtemps que le premier orateur. La brindille en termine tout de même en rendant un hommage aux 15 camarades résistants du rectorat. Longues acclamations. Tu attends qu'elle se calme pour donner la parole au deuxième étudiant sur l'estrade. Le barbu prend le temps de tirer sur sa cigarette, puis de fixer d'un regard fatigué la brindille.
On s'en fout, Max. On n'est pas des épiciers. On va pas se mettre à compter les millions à notre âge, ni les points de retraite, et encore moins le remboursement des médicaments qui permettent aux labos de mieux nous faire crever. C'est tout le système qu'il faut faire tomber.
L'amphi hésite, partagé. Quelques hurrahs, quelques sifflets. La brindille, sûrement vexée de s'être fait traiter d'épicier, tente de répliquer, mais tu lui fais comprendre que son tour est terminé. S'il veut répondre, il doit lever la main et attendre son tour. 15 prises de parole avant lui ont été demandées. Max Labrindy écoute et s'excuse platement. À force de scruter les travées, tu as fini par me repérer en haut de l'amphi. Tu m'adresses ton plus beau sourire et me fais signe de la tête de descendre. Je prends mon air le plus désolé. Impossible de te rejoindre, Antoine.
Je ne vais pas bousculer tout le monde et jouer ma privilégiée. La fille rousse en tenue ethnique enchaîne, comme si ce que venait de raconter le second orateur n'avait aucun intérêt. Camarades, vous souvenez-vous de ce que nous a promis Chirac ? Mangez des pommes ! Crie une poignée d'étudiants éloignés de moi, provoquant des rires hystériques près de la sortie. Plus près, une fille avec un piercing dans le nez demande à sa copine, assez fort pour que la rangée entière entende. On est vraiment obligés de tous s'appeler camarades. Pas assez fort pour qu'on perçoive leur jacassement de l'estrade. La rousse ethnique enchaîne questions et réponses. Chirac nous a promis de réduire la fracture sociale. Elle laisse une respiration, comme pour prendre son élan avant de sauter. Et maintenant, ce qu'il vient nous présenter avec le plan Juppé, c'est la fracture sociale. Un silence, puis quelques applaudissements un peu forcés. Quelques rires. Tu te dépêches de donner la parole à l'orateur suivant. Les prises de position se succèdent, plus ou moins brèves, plus ou moins exaltées, plus ou moins répétitives, presque toutes acclamées par les 600 auditeurs. Au milieu des étudiants s'est glissé un jeune prof. Il doit avoir à peine 10 ans de plus que nous. Il s'excuse d'abord d'accaparer la parole, promet d'être bref, nous félicite chaudement et nous assure que tout le corps enseignant est du côté des étudiants. Qu'on doit continuer, ne rien lâcher. Qu'il est désolé, il ne peut pas rester. Il a des articles à terminer, des réunions importantes, un emploi du temps très chargé, mais à vous de jouer. Et il se lève en obligeant tous ceux qui sont à côté de lui à se lever, tel un emmerdeur qui quitte une salle de ciné au milieu du film. T'as ping-pong ou aquaponais ? Lance Max la brindille du bas de l'estrade, au moment où le maître de conférence sort de l'amphi. Le jeune prof abandonne l'âgé sous les rires et les sifflets. Tu prends l'air contrarié. Ce n'était pas le tour de parole de Max. Mais entre le respect de la démocratie et une bonne plaisanterie... Les interventions se succèdent. Beaucoup font dans la surenchère. Tous ont compris que c'était le meilleur moyen de gagner à l'applaudimètre. Un étudiant de la fac de médecine particulièrement téméraire ose à l'inverse nager à contre-courant. Rouen est la seule université en grève. Pendant qu'on refait le monde dans les amphis, les autres facs étudient. Déjà que le classement n'est pas brillant à Rouen. Lui veut avoir ses concours en fin d'année. Il n'a pas honte de l'affirmer. La grève, c'est se tirer une balle dans le pied. Je m'attends à ce qu'il soit couvert d'injures et d'insultes. Mais contre toute attente, dès que s'élèvent les premiers sifflets, Max Labrindy et sa copine sur l'estrade font de grands gestes pour les calmer. Chacun a le droit de s'exprimer. Toi aussi, Antoine, tu t'égosies. On respecte les opinions de tout le monde. Mais rapidement, tu passes le relais au suivant sur ta liste. Et tu lèves les yeux dans ma direction, pour bien surveiller que je suis toujours là et que je ne rate aucun de tes gestes, aucune de tes prises de décision rapides et précises, aucun de tes froncements de sourcils. Calme, efficace, pondéré. Comme si tu jouais une pièce de théâtre rien que pour moi et que les 600 autres ne comptaient pas. Une pièce comique, parfois. Le dernier à qui tu donnes la parole se lève. Il s'appelle Julien et n'a rien à dire.
« J'avais juste levé la main il y a 40 minutes »,
explique-t-il au cas où.
« Mais non, pour l'instant, ça va. Je suis d'accord avec à peu près tout. »
Tu ne peux pas t'empêcher d'intervenir.
« Alors abrège. Il y a encore 17 demandes de parole derrière toi. »« Oh ?»
Et Julien lève à nouveau la main.
« Tu veux quoi ?»
insistes-tu.
Ben, que tu me réinscrives sur la liste, en 18e position, au cas où.
Et on reprend. Après 5 nouveaux étudiants et étudiantes racontant leur quotidien galère, un homme, plus âgé, parvient enfin à obtenir le droit de parler. Il est militant CGT à France Télécom, s'excuse brièvement, puis expose longuement la convergence des luttes, les camarades d'EDF, de la SNCF, de la Poste qui sont prêts à nous rejoindre. Pour la première fois depuis l'après-guerre, FO et la CGT sont d'accord. Si on s'unit, il n'y aura plus de courriers distribués, plus de poubelles ramassées, plus de trains, plus rien. Le pays sera bloqué. Sur l'estrade, le barbu a écrasé son mégot du bout du pied et est sorti de l'amphi en bougonnant un « Salut les connards ». Je ne comprends pas vraiment pourquoi il réagit ainsi, ni ce que le militant vient de raconter. Ça me semble un peu surréaliste cet appel à la guerre civile. Je me contente de demander à mon voisin, un étudiant de STAPS baraqué, ce que sont FO et la CGT. Moins parce que j'ai envie de le savoir que parce que je sais que tu me lâches pas des yeux et que je veux te rendre jaloux à en crever. Chapeau, Antoine. Tu parviens tout de même à te reconcentrer. Tu t'adresses à la brindille au milieu de l'estrade.
C'est à toi, Max. Tu voulais réagir aux propos de Léo il y a une heure, au début de l'AG. Mais comme il vient de nous quitter, je propose qu'on gagne du temps et que tu passes ton tour.
Vu le regard que te jette Max, tu n'insistes pas. Le pullover rouge n'a pas attendu une heure pour rien et n'est jamais à court d'idées. Et le voilà reparti sur une longue analyse du rôle des élites éclairées sur les masses populaires exploitées. Tu attends doctement qu'il ait terminé. Je remarque, pendant que Max s'exprime, et comme depuis le début de l'AG, que la grande majorité des 600 étudiants restent concentrés. Peu ont quitté l'amphi. Une part non négligeable prend même des notes. Je dois admettre que j'en apprends davantage sur la citoyenneté en une heure d'AG qu'en 5 années d'instruction civique à Camissé. Et les AG ne forment pas seulement à la politique, on y travaille davantage son oral que lors des exposés. On théorise l'histoire, l'économie, la sociologie. On apprend à décrypter les différents niveaux de discours. Je commence à comprendre pourquoi Bayrou, Juppé et Chirac ne veulent pas nous rendre les millions. L'université est une machine à donner une conscience politique à toute une génération, alors qu'ils rêvent sans doute de ne gouverner que des moutons. Le gars des STAPS à côté de moi pose une main sur mon genou. Il s'y connaît encore moins que moi en syndicat, mais a l'air d'accord pour qu'on révise ensemble. Je retire la main baladeuse, l'air offusqué. Le sportif en rougit comme un bébé. Je me lève. Pardon, excusez-moi. Je descends les marches de l'escalier en essayant de ne pas écraser tous ceux qui y sont installés. Ça prend un sacré temps. Assez pour te faire mijoter, d'autant que tu viens d'annoncer qu'il est 11h, que les prises de parole sont terminées et que l'on va devoir passer à la rédaction des motions et des tracts. Qui veut s'y coller ? Ça ne se bouscule pas. Je n'ai plus que quelques marches à descendre et une douzaine d'étudiants à enjamber avant de te rejoindre. Quand soudain, ton regard quitte brusquement la pointe de mes seins dont tu suivais depuis une bonne minute le doux balancement. Tu te penches vers ton sac et tu en sors. Ton téléphone portable. T'es sûrement le seul de l'amphi à en avoir un. Tu vas passer pour un bourge aux yeux de tous, ce que tu es d'ailleurs. Mais sur le moment, tu t'en fous. Tu cries juste un « Oh merde !» Puis tu tends ton GSM à Max Labrindille. Il met un moment à comprendre où sont le micro et l'écouteur, puis tous voient son visage se décomposer. Quand il raccroche, il est encore plus blanc que la rousse à côté. Il n'y a plus aucun tour de parole qui tienne, et il crie à perdre haleine.
Le préfet a fait charger les CRS! Ils ont pris d'assaut le rectorat! Certains de nos camarades qui l'occupaient ont été blessés!
La stupeur s'empare d'abord de l'amphi, avant qu'un vent de colère souffle dans les rangées. Dans la rue, dans la rue! Je regarde l'amphi se vider en quelques instants, et une certitude me saisit. La révolution vient de commencer. Mon pauvre Antoine, la révolution est partie sans toi. Nous sommes les seuls à être restés dans l'amphi. Moi, je n'ai pas bougé et tu as pris comme prétexte pour ne pas suivre tes camarades que tu t'étais engagé à rédiger le texte des tracts.
Un de plus ou de moins dans la rue.
Tu t'es justifié.
Ça changera rien. Mais si personne prend le temps d'écrire ce que nous revendiquons...
Tu t'approches de moi sans oser me toucher, comme si le simple contact de ma peau risquait de te brûler. Tu bafouilles, plus que tu me demandes.
T'es bien en fac de lettres ?
Ouais.
Tu dois te débrouiller mieux que moi en français.
Possible.
Ça te dirait de rédiger les tracts avec moi ?
Si tu veux. J'ai un truc à faire en début d'après-midi, mais après je suis libre.
Ce soir alors ? Viens chez moi si tu peux, j'ai un ordinateur et une imprimante.
Et t'es vieux ? C'est ce qu'aurait dit n'importe qui. N'importe quelle étudiante, même très amoureuse de toi. Si elle n'avait pas été au courant que ton père avait une réunion à la présidence du Conseil Général ce soir, que ta sœur Consuelo était partie pour 3 mois en Erasmus à Glasgow, et que ta mère séjournait depuis 5 semaines dans une maison de repos.
Mes vieux seront pas là. Il y a juste une domestique qui passe pour faire le ménage, à manger et qui s'en va. Tu vois, tu vas débarquer chez les bourgeois. Si tu préfères, on va chez toi.
J'ai pas de chez moi. Mon pauvre Tonio, tu as tellement l'air d'avoir honte du fric de ton papa. Jamais je n'aurais cru que ce serait aussi facile de faire de toi une marionnette et de tirer les fils. Tu te dépêches de confirmer, de peur que je change d'idée.
On se dit 8h ce soir alors ? Rue du Montfortin, tu peux pas te tromper, c'est la plus grande maison du quartier. Un vrai bunker, on la voit à des kilomètres, mais faut en laisser passer le ministre pour y entrer.
Ok.
Au fait, tu m'as pas dit, c'est quoi ton prénom ?
Évidemment, je m'étais préparée à ta question. Elisa. Par contre, je ne m'attendais pas à ta réponse.
Elisa, comme l'Elisa et les cygnes sauvages dans le conte d'Andersen ?
Je me souviens seulement maintenant de ce livre rouge et or sur ta table de chevet. Tu as l'air tout aussi étonnée que moi par cette nouvelle coïncidence. Tu dois y voir un signe du destin. Après tout, ça me rendra la tâche encore plus facile. Et j'en aurai besoin. 6 ans après, j'ai gagné. 6 ans après, je vais à nouveau pénétrer dans le Montfortin. Seule, cette fois. Je ne ferai pas la même erreur une seconde fois.